Est-ce que ça fonctionne? Vous m'entendez? C'est bon. Merci Olivier, merci Léa qui m'ont connecté, donc je suis hyper connecté à vous. Est-ce que vous allez bien ce matin? Je vais très bien parce que je savais que j'allais voir, faire des connaissances avec des frères et sœurs à Albi. C'est la première fois que je viens à Albi. C'est pas la première fois que je découvre la région puisque la semaine dernière j'étais sur une autre église à Toulouse, pas très loin d'ici. Et vraiment, j'ai été très très bien accueilli, donc merci pour l'accueil aussi. Dès vendredi soir, j'ai eu la joie de rencontrer David pour la première fois, deuxième fois, on ne sait plus trop si on s'est vu à la pastorale, et de dîner dans ta famille avec Célia et les enfants. Et d'ores et déjà, j'avais pris une charge émotionnelle en rentrant dans la famille puisqu'il y avait six enfants. Et nous-mêmes, nous sommes six enfants et nous sommes aussi quatre sœurs et deux frères comme chez toi. Donc c'était pour moi déjà, waouh, je prends une charge émotionnelle pour commencer. Et puis, on a vécu un bon moment hier avec ce parcours de générosité qu'on a vécu avec tout un groupe, une vingtaine de personnes. Et puis, j'ai eu deux guides qui m'ont servi de guide dans toute cette belle ville d'Albi. C'est Frédéric et Claudine qui m'ont montré votre patrimoine, très joli patrimoine. Ça vaut le coup d'œil. Merci à eux. Et moi, je viens d'une autre région avec Muriel, mon épouse. Nous venons de la côte atlantique. Qui s'appelle La Rochelle, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une ville qui a été double championne d'Europe de rugby. Ah, il ne faut pas en parler, c'est ça. Bon, alors, La Rochelle, c'est une petite ville entre Bordeaux et Nantes, et un petit peu plus grande que la vôtre, je pense, en 75 000 habitants, un truc comme ça. Et nous sommes là-bas depuis 6 ans, auparavant nous étions à Nantes, dans une autre ville, puisque mon épouse est nantaise. La mutation professionnelle a fait que nous sommes arrivés à La Rochelle il y a 6 ans, on y est plutôt pas mal, c'est beaucoup plus calme que Nantes. Et finalement, on va peut-être y rester encore un peu, selon ce que le Seigneur veut. Comme disait David il y a un instant, je parcours les églises en France. Cette année, il y aura 25 déplacements, donc 25 églises différentes, pour enseigner un parcours de générosité. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, un parcours de générosité? D'ores et déjà, ne vous inquiétez pas, je ne demande pas d'argent. Donc, soyez tranquilles, d'accord? Et donc, avec une vingtaine de personnes hier, je vais leur demander de se lever quand même. Est-ce qu'ils sont là ce matin? Il y en a plusieurs. Là, j'en vois deux. Là, il y a un couple, là. Il y a Nicole qui est là, Gilbert. Levez-vous. Ils sont timides. Regardez-les bien. Parce que si vous avez des questions sur le parcours de générosité, allez les voir, ils vont pouvoir répondre aux questions, d'accord? Parce que quelque chose me dit que c'était le premier parcours de générosité dans Albi, et il y en aura certainement d'autres, parce que les animateurs seront dans ce groupe-là. Et pourquoi est-ce que je suis là en train d'arpenter les églises? C'était pas écrit d'avance sur mon parcours. Il y a 10 mois, en fait, j'ai arrêté le monde séculier. Moi, j'étais dirigeant d'une entreprise et tout allait bien jusqu'à ce que le Seigneur m'appelle à faire un pas de foi. Ce fameux appel dont on entend parler les uns les autres. Et finalement, à un moment donné, le Seigneur a... J'ai vraiment senti sa main dans mon dos. Allez, vas-y, là, c'est maintenant. Mais j'ai 50 ans, Seigneur, tout va bien, je suis confortable, ma vie est bien. Non, mais c'est là que je te veux. Donc, on fait partie d'une association qui s'appelle Générosité en Action, comme vient de dire David. C'est une association qui a été créée par un groupe de chrétiens, dont je faisais partie, en 2021, donc c'est très récent. Et en 2021, on a lancé la première journée de générosité pour les Assemblées de Dieu de France. Et puis, c'est quoi une journée de générosité? C'est de pouvoir écouter un message biblique d'abord sur la générosité. Donc, un pasteur a eu cette charge. Après, on écoute des témoignages de frères et sœurs qui nous parlent de la générosité, c'est quoi la générosité pour eux. Et puis aussi avoir un temps d'échange entre les frères et sœurs dans les églises. C'est quoi la générosité pour toi? C'est quoi pour moi? On n'a pas tous la même définition de la générosité. Et puis aussi de pouvoir parler du projet de l'église locale. Parce que je crois qu'il y a à peu près 100% des églises en France qui ont des projets. Certains ont besoin de déménager, c'est un peu comme chez nous à La Rochelle, on a besoin de déménager, on est trop petit. Certains, c'est des travaux, certains, c'est soutien au ministère, etc., etc. Donc, des projets. Et puis, cette possibilité de faire une promesse de don, donc une offrande, pour le projet de l'église locale. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a continué? Tout simplement parce qu'on a considéré que Dieu nous poussait, il nous a donné le feu vert. Cette première année, cette première édition, il y a eu 500 000 euros de promesses de don pour cette édition. Une vingtaine d'églises, 500 000 euros, on s'est dit vraiment, là, c'est le Seigneur nous pousse à y aller. Alors, on en a recommencé une autre en 2024-2025 et aujourd'hui on est à peu près à 307 000 euros aussi de promesses de dons pour les projets dans les églises. Mais on a des partenaires, et on a plutôt des partenaires, qui nous viennent des États-Unis, qui nous aident dans cette mission de la générosité, à déployer la mission dans toute la France. Et ils nous ont fourni ces fameux parcours de générosité. Ce parcours de générosité s'est déployé dans plus de 50 pays dans le monde. Donc, Albi, vous faites partie maintenant, dorénavant, des églises qui bénéficient de ce parcours. Et c'est un enseignement et ça permet de s'enrichir les uns les autres de par ce qu'on peut voir. Et on écoute des témoignages de frères et sœurs qu'il y a à peu près sur toute la planète, avec des situations qu'on s'imagine peut-être pas on voit pas ça souvent. Comment peut-on être généreux quand on est pauvre? Comment peut-on être généreux quand on est patron d'une entreprise? Etc, etc. Et tout ça, ça enrichit le groupe. Et les uns les autres, on s'enrichit parce qu'on échange beaucoup. Et je crois qu'on s'est enrichi encore beaucoup hier. Et je crois véritablement que le Saint-Esprit fait son œuvre dans le cœur des frères et sœurs qui étaient là hier, parce qu'on va se revoir dans 2-3 semaines en Zoom, et puis on va s'écouter à nouveau. Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a demandé de commencer à faire dans ta vie? Qu'est-ce qu'il t'a demandé de modifier dans ta vie? Etc, etc. Donc j'ai hâte de les revoir dans 3 semaines en Zoom. Donc, j'ai voulu apporter la parole ce matin, ou en tout cas, elle m'a été proposée. Je ne sais plus si je force les pasteurs ou pas. Des fois, je force un peu. Non, David, tu me dis que je n'ai pas forcé. Hein. Tu me dis. Le titre de la parole ce matin, c'est « La générosité, une opportunité passionnante ». Et pour étayer un peu tout ça, j'ai créé un sondage que je propose aux églises quand je passe. Et puis, les fidèles qui le souhaitent répondent au sondage. Et je vous propose de vous lire les questions, quelques questions et quelques réponses des fidèles qui répondent. Quand vous pensez à la générosité, quels mots ou images vous viennent spontanément à l'esprit? Réponse, donner sans rien attendre en retour. Ou don sous toutes ses formes. Ça, c'est des réponses de chrétiens, chrétiennes comme vous et moi. Deuxième question, dans votre compréhension, quelle forme peut prendre la générosité? Partager ses compétences, talents et soutenir financièrement. À votre avis, en quoi la générosité peut-elle faire une différence dans notre société aujourd'hui? La générosité peut améliorer les relations, développer la confiance entre les gens, mais peut aussi être vue comme à contre-courant par rapport au monde où amasser et avoir plus font partie du concept de réussite. Diriez-vous que la générosité fait partie intégrante de votre vie quotidienne? J'ai un oui régulièrement. Parmi les formes suivantes, lesquelles vous arrive-t-il d'exprimer le plus souvent? Donc donner du temps à quelqu'un, faire un don financier, encourager, écouter, prier pour quelqu'un. Sixième question, pouvez-vous citer une situation récente dans laquelle vous avez eu l'occasion d'être généreux? Accompagner une personne dans une nouvelle page de sa vie, c'est de la générosité. Deuxième réponse, faire un don pour une association de l'Église. En sept, pensez-vous que votre église locale offre des opportunités concrètes pour vivre la générosité? Oui, clairement. Vous sentez-vous encouragé à utiliser vos talents ou à vous impliquer? Plutôt oui, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Là, les pasteurs sont attentifs, entendez. Question 9, quel type d'initiative aimeriez-vous voir davantage dans votre église? Et je sais que dans votre église, il y a eu pas mal d'initiatives. Eh bien, c'est projet inter-église, mais ça, vous connaissez déjà ça à Albi. Enseignement, formation sur la générosité. Encore une fois, on n'a pas tous la même définition. J'ai bientôt fini. Question 10. Quels éléments peuvent freiner ou limiter votre générosité? La peur de ne pas faire assez bien. Et cette réponse, j'avoue qu'elle m'a un peu bluffé. La peur de ne pas faire assez bien. Ça veut dire que notre peur nous empêche ou nous limite d'être généreux, de faire un acte de générosité. Le manque d'information et d'opportunité, parfois. Selon vous, quel serait le principal levier pour encourager davantage la générosité parmi les chrétiens en France? Transparence et confiance. Créer des projets collectifs. Proposer des occasions pour donner. Supprimer le tabou de l'argent. Qu'aimeriez-vous voir progresser dans l'Église en France concernant la générosité? J'aimerais voir progresser une culture du partage sincère, où chacun contribue selon son cœur pour soutenir l'œuvre de Dieu et aider ceux qui sont dans le besoin. Deuxième réponse, la mentalité sur ce qui est réellement la générosité. Ne pas sur-spiritualiser cette notion, ne pas avoir de gêne pour parler d'argent. Je termine par cette question. À titre personnel, y a-t-il une forme de générosité dans laquelle vous aimeriez progresser? Disponibilité, temps. On n'a pas assez de temps. On court après le temps. Et encouragement, prière. Voilà quelques questions et quelques réponses de frères et sœurs comme vous et moi. Sur ce sondage, j'ai trouvé ça très très enrichissant. Et comme vous l'avez entendu, on parle beaucoup de dons, on parle beaucoup de finances, on parle beaucoup d'argent. Est-ce que c'est un péché de parler d'argent? Je n'ai pas beaucoup de réponses. Est-ce que la Bible parle d'argent? Un tout petit oui. Alors je vais vous aider. La Bible parle à 390 reprises avec le mot argent entre la Genèse et l'Apocalypse. C'est pas moi qui le dis, c'est notre Bible. On a la même à 390 reprises. Jésus lui-même, dans son enseignement, dans ses paraboles, une parabole sur quatre de Jésus, une parabole sur quatre de Jésus parle de biens, richesses et argent. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui a utilisé ces paroles. Et donc, pourquoi avons-nous autant de mal à parler d'argent dans notre pays? Parce que nous sommes français. Et les Français et l'argent, on cloisonne, on n'en parle pas, on a peur. Et alors dans nos églises, n'en parlons pas. Personnellement, j'ai 50 ans, je suis un bébé assemblé de Dieu. Une main suffit pour... Est-ce que j'ai déjà entendu parler de cette notion d'argent? Je crois que j'ai pas dû entendre plus de 5 fois parler d'argent dans l'église. Est-ce que c'est de la peur, peut-être? Finalement, j'ai décidé de ne pas m'attacher à ça. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire? De parler de générosité, de parler d'argent, de répondre aux questions quand on peut le faire, parce qu'on n'a pas la réponse à tout. Mais par contre, la parole de Dieu nous en parle. L'argent, on le verra, c'est un bon serviteur, c'est juste un très très mauvais maître. C'est tout, on est d'accord? Alors je vous propose d'aller faire un tour dans la parole de Dieu et d'ouvrir la parole dans Luc 18, 18 à 25, et vous connaissez forcément ce passage. Luc 18, 18 à 25, et j'ai pris la version Parole de vie. Un chef juif demande à Jésus, « Bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours ?» Jésus lui répond, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon, sauf Dieu. Tu connais les commandements, ne commets pas d'adultère, ne tue personne, ne vole pas, ne témoigne pas faussement contre quelqu'un. Respecte ton père et ta mère. » L'homme lui dit, « J'obéis à tout cela depuis ma jeunesse. » Jésus l'entend et lui répond, « Une seule chose te manque encore. Tout ce que tu as, vends-le et distribue l'argent aux pauvres. Alors, tu auras des richesses auprès de Dieu. Ensuite, viens et suis-moi. » Mais quand l'homme entend cela, il devient tout triste parce qu'il est très riche. Jésus voit que l'homme est triste et il dit, « Pour ceux qui ont des richesses, c'est vraiment difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'un chameau peut passer facilement par le trou d'une aiguille ? Eh bien, pour quelqu'un de riche, c'est encore plus difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ce passage, il nous enseigne beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense que pour parler de ce passage, il faudrait un peu plus longtemps qu'une prédication. L'homme riche connaît la parole, il le dit. Hein. Il observe les commandements, il les connaît. Et il dit lui-même, « Je connais les commandements et j'obéis à ça depuis ma jeunesse. » Jésus connaît son cœur, par contre. Et cet homme ne sait probablement pas que Jésus connaît son cœur. Cet homme est affecté parce que ses possessions ont une valeur pour lui. Mais elles ont une valeur majeure. Et le mot grec pour richesse dans ce passage, c'est ploutos. Ploutos, ça signifie qui désigne la richesse, la fortune. Cette richesse représentait, ni plus ni moins, son identité, son statut social. Et c'est là que, pour cet homme riche, voilà pourquoi il a tant de mal à dire « Ok, Seigneur, je vais vendre tout ce que j'ai. » Voilà pourquoi quand le Seigneur Jésus lui dit « Vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres », il a du mal. Parce que ça représente la place numéro un dans sa vie, son statut social, sa richesse, tout ce qu'il a acquis, qu'il a gagné. C'est à la première place dans sa vie. Pourtant, il est dit qu'il observe les commandements depuis sa jeunesse. Mais il aime sa richesse parce qu'elle représente qui il est. J'ai presque envie de dire, c'est un moi-je. Regardez-moi, je suis l'homme riche. Et les personnes qui sont autour de lui doivent le décrire comme c'est l'homme riche. Et cet homme a vraiment du mal et a du mal à accepter ce que lui dit Jésus. Finalement, l'argent prend la place qu'on lui accorde dans nos vies, vous et moi. Si on est comme cet homme riche, c'est à la première place et Dieu est en dessous. Ou à l'inverse, Dieu est à la première place et les richesses en dessous. Je vais vous raconter une histoire d'un frère qui s'appelle Kurt Bullmann. Kurt Bullmann, c'est un frère suisse et qui a créé son entreprise il y a quelques années. Et puis au début de son entreprise avec son frère et puis quatre autres amis, ils ont créé cette entreprise et puis très rapidement, des gros contrats sont arrivés. C'est une entreprise dans l'immobilier. Et des gros contrats sont arrivés, tant mieux pour cette entreprise, les chefs d'entreprise, vous inquiétez pas, tout va bien. Et l'argent est arrivé, c'est plutôt ce qu'il en a fait qui est devenu un peu surprenant. À ce moment-là, Kurt Bullmann n'est pas chrétien, il ne connaît pas Jésus. Et les millions arrivent sur les comptes personnels, et là, la première place dans sa vie, c'est comme cet homme riche. C'est mon argent, je l'ai gagné, honnêtement, et elle prend une place importante. Alors Kurt achète un beau bateau, un beau catamaran qu'il place sur le lac là-bas, à côté de Genève. Et puis, quand il regarde son beau bateau, il est heureux de voir ce beau catamaran qui est grand et qui prend la place dans le port là-bas. Et puis un jour, Kurt se promène et il voit son bateau. Et qu'est-ce qu'il voit à côté? Un plus grand bateau. C'est donc un drame pour un homme riche d'avoir un plus grand bateau à côté du sien en plus. Selon vous, qu'est-ce qu'il a fait, Kurt? J'entends pas. Il a acheté un plus grand. Eh bien, vous avez raison, parce qu'un homme riche, son statut descendait, imaginez-vous. Donc il a acheté un plus grand bateau. Et puis, l'histoire de Kurt, elle bouge un petit peu parce qu'à un moment donné, il y a un changement de loi en Suisse qui lui fait perdre la totalité de tous ses gains. Il perd tout avec une bonne dette de 140 millions de francs suisses. Donc il perd tout. Tout. Et un de ses amis très proches, c'est à ce moment-là que généralement, quand on est dans la difficulté, que nos cœurs s'ouvrent un petit peu plus. On est peut-être un peu plus attentif à ce qui est dit. Et là, il donne sa vie à Jésus, mais il a toujours 140 millions de dettes. Hein. Il donne sa vie à Jésus, et son histoire dit qu'il refait un peu d'affaires pour se sortir un peu de cette panade. Et d'ailleurs, Kurt Bullmann est aussi un des créateurs des formations de Compass France Europe Monde pour aider les chrétiens dans les églises à se sortir de la zone rouge. Parce que certains d'entre nous, peut-être pas Albi, mais ailleurs, il y a des chrétiens qui ne terminent jamais le mois dans le vert, en positif. Et ça, c'est un drame, parce que c'est compliqué de donner la dîme quand on n'arrive même pas à finir le mois en vert. Vous êtes d'accord? C'est compliqué. Alors Kurt, il a créé tout ça avec des frères et sœurs, et franchement, ça fait du bon travail, et ça aide énormément de monde. Alors, Kurt a donné sa vie au Seigneur, et il est dit aussi qu'il a immédiatement évangélisé ses amis, son frère. Un a donné sa vie au Seigneur, merci Seigneur. Il en restait encore quatre. Deux ont eu un cancer. Et je pense que quand on passe dans des maladies comme ça, le moral peut être touché. Donc la situation financière, la maladie, ils sont rapidement décédés. Deux se sont suicidés. Parce qu'ils n'ont pas accepté de perdre tout ce qu'ils avaient. Ils avaient mis la première place avec des richesses. Ils n'ont pas accepté de descendre dans une classe sociale. Ils se sont donc suicidés. C'est un drame, parce que l'argent, ça peut nous faire tourner la tête. Et ça peut nous emmener dans des sphères qu'on n'imagine même pas. Richard Foster a dit, le seul acte de donner de l'argent, ou quelque autre trésor que ce soit, fait quelque chose en vous. Ça détruit le démon de la cupidité. C'est ça la vérité. Ça détruit le démon de la cupidité. Deuxième point, Jésus appelle un détachement radical. Je vous propose de lire dans Matthieu 6, 24, un autre passage de la parole, que vous connaissez forcément. J'aime beaucoup Matthieu 6. J'aime beaucoup ce livre. Matthieu 6, 24. Personne ne peut servir deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre, ou bien il sera fidèle à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. La parole exige un abandon total, complet. Vends tout ce que tu as, pas seulement de partager, pas seulement un petit peu, mais vends la totalité pour distribuer aux pauvres. C'est un appel au détachement total. Alors on pourrait très bien se dire, mais j'aime l'argent, ok, mais je méprise pas Dieu. Écoute, pasteur David, tu me connais. Non, tu ne méprises pas, mais tu ne l'as pas mis à la première place dans ta vie. C'est ce qu'il pourrait très bien me répondre. Et c'est pas possible de mettre Dieu au même rang que les fortunes, que la richesse. C'est pas possible. Certains ont essayé, ça ne marche pas. La Bible nous prévient. C'est compliqué de partager tout ça, c'est compliqué. Je vous propose aussi une autre histoire qui m'est très personnelle, donc je vous demande de ne le répéter à personne, d'accord ? C'est la générosité, c'est l'argent, mais c'est pas que ça. C'est le temps qu'on peut accorder à quelqu'un, c'est de pouvoir exercer les talents que nous avons reçus pour quelqu'un d'autre. Et j'avoue être tombé dans un cycle assez infernal qu'est le temps. On court toujours après le temps. Je cours toujours après le temps. Et j'ai eu la joie d'avoir un joli cadeau d'anniversaire il y a quelques années par mon épouse Muriel. J'ai eu le droit à un abonnement de la chaîne cryptée appelée Canal+. Et puis, merveilleux, je n'attendais que ça. Et je suis un fan de football. Rien à voir avec le football club d'Albi. Mais j'avoue être un fan de football. Et puis, mon épouse a vite regretté ce qu'elle a fait, puisque moi je passais mon temps le week-end, hein, vendredi soir, et samedi soir, et dimanche soir, et lundi soir, et s'il y a un match de Champions League dans la semaine, etc., etc., et je passais un peu de temps devant la télé. Elle m'a fait un deuxième cadeau un an après. Elle a supprimé l'abonnement. Je lui ai dit, chérie, pourquoi ? Il est nécessaire qu'on repasse un peu de temps ensemble, tu crois pas ? J'avoue qu'elle avait encore raison. Mais comme je suis un peu têtu, j'avoue, donc ne répétez ça à personne, hein, j'ai encore utilisé un autre abonnement, Netflix. Vous connaissez ? Ah, il y a quelques personnes abonnées d'ailleurs. Et puis, c'est bien Netflix parce que un frère me disait hier, oui, mais c'est bien Netflix parce qu'il y a la vie de Jésus. Oui, c'est bien. Tu as raison, mon frère Frédéric. En disant Frédéric, je suis tranquille parce qu'il y en a au moins trois hier. Et puis. Sauf qu'on peut vite rentrer dans une espèce d'addiction. Vous savez, quand vous avez fini votre journée de boulot, vous êtes fatigué, et puis, oh, tiens, on va se mettre devant le canapé, et puis on va regarder une série. Oh, jusqu'à présent, c'est pas péché, hein, tout va bien. Sauf que quand au bout de 50 minutes, quand on a regardé le premier épisode, on veut savoir la suite, donc on regarde le deuxième épisode, et le troisième, etc. Donc j'étais un peu pris là-dedans. Ce qui m'a fait rire, c'est que ma femme elle-même est tombée dedans aussi, donc on était à égalité. Et à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on faisait n'importe quoi. Ce qui avait été un problème il y a quelques années redevenait un problème pour le couple ce coup-ci. Radicalement, qu'est-ce qu'elle a dit ? On coupe l'abonnement, comme ça il n'y a plus d'abonnement et plus de Netflix non plus. Ne coupez pas Netflix, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Pour nous, c'était un problème parce que ça prenait trop de temps alors qu'on cherche du temps. Donc, ça nous permet de nous cultiver un peu plus, de passer plus de temps pour les autres. Le conflit entre confiance en Dieu et le conflit entre confiance dans ses richesses de ce monde, c'est un vrai conflit. L'homme riche, lui, était sans doute confiant dans ses moyens terrestres, parce que sa richesse, son statut social. Jésus lui demande de transférer, en fait, toute sa confiance, toutes ses ressources terrestres en Dieu seul. En Dieu seul. Il veut son cœur et il veut toute sa vie. Et ça lui pose problème, parce qu'il est attaché à ses richesses. Et en fait, quand Jésus lui demande de vendre tout ce qu'il a, ses richesses, et les distribuer aux pauvres, ce qu'il lui demande, c'est « exprime ta générosité, fais du bien à ceux qui sont tout autour de toi, à ces pauvres qui ont des besoins. » Mais il est triste, il n'a pas envie de partager, cet homme riche. Le groupe hier a fait connaissance avec une sœur qui s'appelle Renée Loki. Renée Loki, c'est une médecin obstétrique. Elle a fait ses études donc, pour devenir médecin. Et aux États-Unis, les étudiants font parfois des gros crédits pour étudier. Et cette sœur, à 37 ans, avait tout remboursé, tout son crédit, et même plus, c'est qu'elle avait une vie plutôt confortable, voire même très confortable. Pourtant, néanmoins, elle avait un rendez-vous divin à ses 37 ans. Elle était vide. Elle ne savait pas ce que... Bon, ok, ma vie, c'est super. J'ai étudié. Je fais un métier que j'aime. Et pourtant... Il y a un blocage. Je suis un peu vide, là. Et cette sœur, donc, s'est confiée au Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai 37 ans, je suis encore jeune, je peux encore faire des choses. Et le Seigneur a mis l'accent sur deux points dans sa vie. Le premier, c'est qu'il a mis en évidence un problème dans sa relation amoureuse, qui n'était pas conforme à ce que Dieu voulait. L'amour, c'est compliqué, hein? Et il lui a demandé d'arrêter cette relation amoureuse. Dur. Elle a donc exécuté, elle a arrêté cette relation amoureuse qui l'empêchait d'aller plus loin. Et puis, le Seigneur lui a montré un deuxième aspect de sa vie, c'est tes finances, tu fais beaucoup de finances, tu places beaucoup d'argent. Elle avait décidé, à 50 ans, d'arrêter de travailler et de vivre de tout ça, de tout ce qu'elle avait passé. Et puis, le Seigneur lui a demandé quelque chose d'assez directif. Peut-être faites attention à ce que vous dites au Seigneur, déjà. Parce qu'il lui a demandé de diviser par 4, ni plus ni moins, son salaire. Et un quart de son salaire correspondait au salaire d'une infirmière. Il lui a demandé de continuer de travailler comme une médecin, mais de vivre avec un salaire d'infirmière et que tout le reste aille pour l'œuvre. Je ne sais pas vous, mais est-ce que vous êtes prêt à diviser par 4 votre salaire pour, je pense que ça peut être compliqué. Mais le Seigneur parle précisément, individuellement, à chacun d'entre nous. Et pour cette sœur, voilà ce qu'il lui a demandé. Elle s'est exécutée. Et aujourd'hui, cette sœur vit avec le quart de salaire qu'il lui faut. Ça n'a pas été facile, hein. Ça n'a pas été facile du jour au lendemain de se remettre à compter. Voici mon budget, voici ce que j'ai, je ne peux pas avoir plus. Et tout le reste, c'est pour le Seigneur. Waouh ! Quel témoignage ! Quel témoignage ! Le texte nous montre ce que Jésus attend de nous, mes frères et sœurs. Ce que Jésus attend de nous, c'est que nous soyons prêts à tout abandonner pour le suivre, lui. Est-ce que nous sommes prêts à cela ? Est-ce que nous sommes prêts aussi à faire des sacrifices, comme cette sœur, René Louki ? Faire des sacrifices, parfois, c'est difficile de donner quand on a l'impression qu'on n'a pas ou plus. Hier, on voyait un témoignage d'un peuple en Inde qui sont pauvres. Ce qu'on voyait, c'est que la matière première, ce qui est vital pour eux, c'est le riz en Inde. Et bien, chaque femme, quand elle fait à manger, la première chose qu'elles font, c'est qu'elles mettent une poignée de riz de côté pour l'œuvre du Seigneur. Même quand c'est compliqué, c'est ce qu'elles font. C'est un sacrifice, c'est difficile. Et l'œuvre en Inde, dans l'état du Mizoram, est juste exceptionnelle, mais vous demanderez aux frères et sœurs qui ont fait le parcours. Jésus nous demande aussi d'être généreux avec ceux qui sont pauvres. C'est ce qui nous est demandé aussi, que nous soyons généreux. Matthieu 6, 22-23 nous dit: les yeux sont la lampe du corps. Donc si tes yeux ne sont pas malades, ton corps tout entier est dans la lumière. Mais si tes yeux sont malades, ton corps tout entier est dans la nuit. Alors, si la lumière qui est en toi est comme la nuit, ta nuit est bien noire. Ça veut dire tout simplement que si mes yeux sont malades, si je regarde à la richesse, si je regarde à mon statut social, je suis malade, je ne peux pas voir celui qui en a besoin. Par contre, si j'ai placé l'argent, si j'ai placé mes richesses, mes biens à la première place, tout va bien. Mes yeux sont pas guéris, ils sont pas malades. C'est tout mon corps qui n'est pas malade. C'est ça que ça veut dire. Troisième point, la générosité ouvre à la bénédiction et au royaume. Matthieu 6, 31-33 nous dit: ne soyez pas inquiets en vous demandant qu'est-ce que nous allons manger. Qu'est-ce que nous allons boire? Avec quoi est-ce que nous allons nous habiller? En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses et votre Père qui est dans les cieux le sait bien. Il sait tout. Il connaît nos besoins. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Il vous donnera tout le reste en plus. Il semble que avec Dieu, nous obtenions des choses quand on donne. Vous avez remarqué ? Quand on donne, on obtient des choses. Ce n'est pas tout à fait le courant du monde dans lequel nous vivons. Le monde actuel, c'est donne-moi, et donne-moi, et encore donne-moi. C'est à peu près ça. Je vous donne des expériences d'une église où je suis allé. Il y avait ce groupe de chrétiens qui participaient à ce parcours de générosité. Et puis, Je les ai vraiment laissés parler. Ils cherchaient un moyen d'avoir plus de dîmes pour l'église locale, d'augmenter la dîme locale. Alors, comment ils s'y sont pris ? Ils ont estimé qu'en allant dans leur magasin alimentaire, ils allaient faire une économie de 5 euros. Non pas à chaque fois qu'ils aillent dans ce magasin, mais une fois par mois. Une économie de 5 euros. D'accord ? Vous me suivez ? 5 euros. Parce que généralement, quand vous faites votre to-do list, vous la respectez jamais déjà. Vous achetez toujours un truc en plus parce qu'il y a une super promo avec le ticket, je ne vais pas dire le nom. Et une fois par mois, 5 euros, c'est une église qui est beaucoup plus petite que la vôtre, 80 membres. 80 membres, 5 euros, ça fait combien par mois ? Les mathématiciens ? 400, c'est ça que j'ai entendu ? 400 euros. Multiplié par 12, ça fait combien ? Je regarde encore le frère qui a répondu. Ça fait 4800 euros. Et donc, le trésorier, je peux vous assurer qu'il a un grand sourire comme ça, si on lui posait. Et oui, très facilement. Et c'est ça, en fait, c'est ça ce qui est subtil avec l'argent, c'est quand on rentre dans un magasin, tout est fait pour que vous puissiez dépenser un petit peu plus. Je sais de quoi je parle. J'étais de l'autre côté avant. J'étais dirigeant aussi dans un magasin, d'une boutique, et je disais à tous mes salariés, faites en sorte que le client reparte toujours avec quelque chose. Faites en sorte à chaque fois. Ah, maintenant, je fais l'inverse. Je dis aux chrétiens, arrêtez de vous faire avoir. Mais ces frères et sœurs, ça les a vraiment bousculés, parce que on ne se rend pas compte, finalement, 5 euros, c'est pas beaucoup sur la liste, sur la to-do list, mais finalement, pour beaucoup, c'est beaucoup. C'est qu'à de le dire. Et pour notre église locale, avoir un petit peu plus d'offrandes, un peu plus de dîmes, bah on peut faire encore beaucoup plus de choses. Parce qu'il en va de notre église. Dans une église, il faut aller chercher ceux qui sont perdus. Albi, vous êtes à peu près 50 000 habitants, je crois. Quelque chose me dit qu'on n'est pas 50 000 ce matin. On est un peu moins. Mais c'est ça notre mission, c'est d'aller chercher ceux qui sont perdus. Et la générosité, ça peut permettre tout ça. Autre témoignage. J'en ai plein, mais le temps passe vite. J'ai montré dans pas longtemps, d'ailleurs. Un pasteur m'appelle en début d'année. Il me dit, Jean-Luc, il faut absolument que tu m'envoies tout ton kit de la journée de générosité. Je vous en ai parlé tout à l'heure, d'accord ? Je dis, parce que là, le Seigneur est en train de nous mettre des feux verts partout et on a vraiment besoin de pouvoir enseigner cela. Donc, il m'explique le projet, le bâtiment, centre-ville de la commune, un peu comme vous êtes super bien placé. Et puis, la mairie leur vend 256 000 euros le bâtiment, ce qui n'est pas trop trop cher pour un bâtiment d'un centre-ville. Néanmoins, l'église n'a que 150 000 euros. Alors ils y vont par la foi, hein, les frères et sœurs. Ils ont proposé à la mairie 150 000 euros, accordé, 106 000 euros de moins. Ouf. Alors ils y vont étape par étape. Après, ils ont fait des gros devis pour avoir les travaux, tout ça. Ils ont expliqué tout le projet à l'église locale comme ce matin. Il y a eu des questions, les pasteurs, le conseil spirituel, le conseil d'administration a répondu à toutes les questions. Comme ça, toute l'église est concernée par le projet. Et puis, à un moment donné, un frère est arrivé, modestement, humblement, a demandé à voir le pasteur. Il lui dit, j'ai parfaitement compris le projet de l'église locale. Je l'ai parfaitement compris. Et j'ai très envie de servir aussi dans ce projet. Il a fait un don de 150 000 euros. Ça, c'est en 2025, mes frères et sœurs. Ça, c'est en 2025. Autre église, encore. Allez, j'arrête après. Une petite dernière. Un pasteur m'appelle pour encore avoir ce kit de générosité, journée de générosité. Il me dit, écoute, on a très envie, c'est une petite église de campagne dans le Nord, et le projet de l'église locale, est-ce que je peux mettre soutien au ministère ? Explique-moi pourquoi tu veux... Ben, en fait, je vais être obligé de reprendre le travail. Le pasteur va être obligé de reprendre le travail parce qu'il n'y a plus assez de dîmes, d'offrandes, ok ? Ben, je suis bien sûr, tu peux, ça peut être une valeur ajoutée. Cette petite église de campagne a reçu 7000 euros de dons sur la journée de générosité. Merci Seigneur. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Les offrandes sont reparties un peu, la dîme est repartie en hausse, ce qui a permis au pasteur de ne pas reprendre un travail et de rester dans sa mission, ce pourquoi elle a été missionnée par Jésus. Et une petite mamie qui était dans cette église depuis de nombreuses années, à un moment donné, eh bien, la vieillesse, parfois, ben, on ne peut plus se déplacer parce que... Et donc, par contre, elle priait pour son église locale. Elle priait. Puis cette sœur, elle est partie. Elle est partie rejoindre le Seigneur au mois d'avril-mai. La grande surprise du pasteur, il a reçu un appel. Je ne sais plus si c'est le notaire ou le banquier, mais l'assurance vie que cette petite sœur avait ouverte pour l'église locale, le don a été fait, 19 000 euros. Voilà ce qui s'est passé. Et évidemment, pour une église de campagne, eh bien, ça met de l'air, évidemment. On parle bien d'argent, mais cette église, cette petite sœur, avait placé Dieu en premier. Elle savait qu'avec cet argent, qui est un bon serviteur, ça pourrait aider l'église locale. Et voici ce qui s'est passé pour cette église locale en 2025. Bon, j'arrête là parce que j'en ai d'autres, mais il se passe de très très belles choses. Très très belles choses, grâce à la générosité de chacun d'entre nous. Si une personne adopte une attitude correcte à l'égard de l'argent, cela l'aidera à améliorer presque tous les autres aspects de sa vie. C'est un homme pas très connu qui s'appelle Billy Graham qui a dit cette phrase. Je ne sais pas si vous le connaissez. Allez, je termine parce que le temps passe vraiment vite. Conclusion. Ce jeune homme riche, il est parti tout triste, comme on l'a lu. Mais nous, quel choix ferons-nous ? Point d'interrogation. La générosité n'appauvrit pas, mes frères et sœurs. La générosité, elle enrichit. La générosité, elle libère. La générosité, elle témoigne de l'amour de Dieu. C'est ça la vérité. Alors, laissons Dieu sanctifier nos cœurs, mes frères et sœurs, pour faire de la générosité une opportunité passionnante. Je le crois véritablement. Alors, mes frères et sœurs, encore une fois, réfléchissons peut-être. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas d'argent ? Pourquoi on ne parle pas de générosité ? Pourquoi est-ce qu'on est aussi fermé en France ? Pourquoi doit-on ne pas parler d'argent alors que la Bible en parle ? Pourquoi est-ce que les pasteurs n'osent pas, etc. Je me suis posé ces questions, je me dis, mais il est temps d'arrêter tout ça. Mon frère, ma sœur, si quelqu'un parle d'argent, ne soyez pas offusqués. C'est juste que parfois, ça peut aider des frères et sœurs qui sont juste à côté. Hier, une sœur a exprimé son besoin très précis pour son budget. Oui, je suis persuadé qu'elle va avoir de l'aide de la part du groupe. C'est ça la vérité. À ne pas parler, parfois, eh bien, ça peut faire grossir des problématiques dans des vies. Je vous parlais de la formation qu'on passe tout à l'heure. Il y a des vraies vertus à parler d'argent, à dire les choses. Évidemment, on reste en intimité. Mais ça peut vraiment permettre à des frères et sœurs d'être soulagés. Pas à lui, mais ailleurs, des frères et sœurs sont dans le dur. Et une église a expérimenté ça, et il y a eu des fruits de tout ça. Des frères et sœurs sont sortis de la zone rouge parce qu'on a arrêté les crédits revolving, etc., etc., des taux d'emprunt de dingue. On se fait happer par ce genre de choses, mais ça a vraiment libéré des frères et sœurs. On prie ensemble ? On prie ensemble ? Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Seigneur, merci parce que tu nous éclaires sur cette thématique très précise de la générosité, de l'argent. Et Seigneur, je te demande de bénir mes frères et sœurs, de bénir certains qui ont peut-être cette difficulté à en parler, de bénir certains qui ont peut-être des difficultés financières et qui n'osent pas demander, de bénir d'autres qui sont totalement dans le dur. Seigneur, je te demande de les aider, de permettre ces connexions entre les frères et sœurs de cette assemblée, pour que librement la thématique de l'argent ne soit plus un tabou, mais que cet argent puisse prendre la place qui lui est due, c'est-à-dire en serviteur, et non pas comme en maître. Seigneur Jésus, libère chacun, chacune, celles et ceux qui ont besoin d'être débarrassés de cette place qu'ils ont, de l'argent en place numéro un. Mais Seigneur, prends toute la place qui t'est due dans chacune des vies, dans nos vies, Seigneur. Aide-nous quotidiennement à ne pas nous faire être distrait par rapport à tout ce que le monde nous propose. Et vraiment, aide-nous à nous renforcer, justement. Et que, Seigneur, cet argent puisse servir à l'œuvre locale, à l'œuvre nationale, Seigneur. Et que nos églises, Seigneur, soient des phares dans là où elles sont positionnées, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, parce que toi, tu as tout donné. Tu as donné ton Fils Jésus, qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Nous ne pourrons pas donner notre vie comme toi tu l'as fait. Alors comme tu as tout donné, Seigneur, permets-nous de donner à notre prochain, Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen.